Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, c'est la quotidienne musicale, c'est le magazine inclusif de toute la scène française et ça se passe en direct au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique où il fait ce soir au moins 50 degrés, ça doit être ça le réchauffement climatique. Ce soir nos invités ont chaud, Clara Isée, bonsoir.
Bonsoir.
Clara Isée, en attendant le premier album sur lequel vous travaillez, c'est ça j'imagine?
Exactement.
Voilà, oui. Donc en attendant le premier album, il y avait eu un EP hein, en 2017, vous faites la rentrée littéraire avec un premier roman Mise à feu, un roman familial d'émancipation sur plusieurs années, l'histoire de Nine, Gaspard et Nouchka, leur pie, que l'on suit de l'enfant jusqu'à leur majorité, deux enfants qui se construisent dans l'absence de leur mère et dans la maison d'un oncle inquiétant. Un roman au réalisme magique hanté par un titre chanté par Nina Simone ou David Bowie. Je suis curieux de savoir quelle est la voix que vous avez choisie. À vos côtés, un chanteur populaire dans la force de l'âge, Arthur Age, bonsoir.
Bonsoir.
Demain, vous sortez 8 titres, 8 chansons créées à partir et pour la pièce de Wajdi Mouawad, dont vous étiez le héros, mort prématuré d'un chanteur dans la force de l'âge.
Un chanteur populaire.
Populaire dans la force de l'âge, sur scène, il y tient. Hein. Sur scène, vous incarniez Alice, costume doré, cheveux peroxydés, un double maléfique s'il en est. Vers 22h30, on retrouvera les nouveautés nouvelles de Marion Guilbeault. Au programme ce soir, Pierre Davenkeller, Barbara Carlotti et Grand Total et Limousine avec Victor Solf. Côté club, vous l'avez compris, c'est ouvert.
Côté club, Laurent Goumard sur France Inter.
Deux voix puissantes ce soir dans Côté Club, Clara Isée, Arthur Age, la rencontre au sommet en ce début de saison de Côté Club. Je ne vous présente pas parce que vous vous connaissez. Vous avez partagé de nombreuses scènes ensemble en fait.
Oui, quelques-unes. Et j'ai le souvenir d'une soirée extraordinaire. On avait joué à Ramatuelle. Et Clara avait une maison à côté, remplie d'amis, hein, d'amis à toi, et tu nous avais invités. Et en fait, il y avait quelques bougies, une grande tablée. Et ils avaient chanté des chansons, toutes les chansons que vous chantiez ensemble.
Des chansons grecques, des
chansons espagnoles, mais des chansons rares, hyper belles. Et tout le monde chantait en chœur. C'était vraiment, c'était complètement intemporel cette soirée. Et puis la musique était tellement belle, ça m'a vraiment beaucoup inspiré cette soirée.
Ouais, c'était magique, ouais. C'est vrai.
Des chansons grecques d'ailleurs, on en trouve au moins une dans le roman. On y reviendra. Vous aviez fait quelques premières parties d'Arthur
Age? Oui, ouais, ouais, complètement.
Il est comment son public?
Magnifique.
Bien sûr.
Pour moi, tu avais invité pour mon anniversaire au Cabaret Sauvage.
Ouais. Mmh.
Ouais. Vous-même, Arthur Age, vous vous souvenez des premières parties que vous avez pu faire à l'époque quand vous étiez jeune?
Et beau.
Oui, mais vous l'êtes toujours. Alors là, franchement...
Jeune et beau et fort. Oui, je me rappelle parce que j'avais notamment fait quelques parties de Paolo Conte.
Ouais.
Et malheureusement, on avait eu un succès extraordinaire. Et moi, je sais, parce que ça m'est arrivé plus tard, d'avoir des premières parties qui ont surcartonné. Et après, vraiment, tu galères derrière.
C'est
tu
ça,
rames, tu vois. Et je me rappelle, spécialement, je crois que c'était au Théâtre Antique d'Orange, enfin, ou de Vienne, je sais plus, c'était un théâtre antique comme ça. On était en trio à l'époque, c'était au début. Et il y avait eu un silence, il y avait une espèce de magie que j'ai rarement ressenti dans toute ma longue carrière. Une espèce de truc où tu sais pas pourquoi, t'as le frisson du début à la fin, et les gens aussi, il y avait quand même pas mal de gens. Et c'était avant Paolo Conte. Et après, il avait, et je le comprends, j'aurais fait pareil, il avait fait vraiment la gueule à
ah ben, c'est pas
mais
un
c'était
beau
un très beau souvenir quand même. Et puis voilà,
ouais. Vous avez fait aussi la première partie de Barbara au Francofolie?
Ah oui, j'ai fait la première partie de Barbara. Alors ça,
89 à La Rochelle.
Ouais, c'était, ouais, j'étais vraiment tout jeune.
Et beau.
Et beau, ouais. Et con, stupide.
Pourquoi?
En fait, je m'étais pas rendu compte que déjà c'était exceptionnel parce que elle acceptait très rarement les premières parties, apparemment, d'après ce qu'on m'avait dit. Et puis elle m'avait dit beaucoup de choses très jolies, très gentilles sur moi au début. Mais je me rendais pas du tout compte que c'était important de faire la partie de Barbara. Puis en plus j'étais tellement stressé parce que c'était sur le vieux port là, avec plein de gens, tu vois. Quand tu débutes, tu es là-dedans, complètement paumé, quoi. Moi, j'étais à l'époque absolument terrassé par le stress.
Elle a ramé après vous ?
Pas trop, non. Pas trop, je ne l'ai pas trop abîmé son spectacle à cette fois, ouais.
Et vous, Clara Isée, les premières parties, c'était des expériences plutôt positives ou vous avez dû quelquefois devoir vous imposer ?
Non, c'est des expériences très positives parce que c'est aussi des publics qu'on découvre et qu'on n'aurait pas rencontré sans ça.
Ouais, complètement. Et qui, quelquefois, ne vous veulent pas non plus.
Complètement. Non, c'est vrai que parfois c'est encore plus stressant, je trouve, parce qu'évidemment, on doit faire ses preuves. Mais pareil, là, j'ai joué justement au Francofolie dans le même cadre pour la première fois sur la grande scène avant Feu Chatterton et j'étais complètement terrifiée, mais c'était un moment magique. Ouais.
Vous leur avez pourri leur spectacle?
Non, pas du tout.
Dommage. Bon, on va rentrer dans ce nouvel album Arthur Hache, un mini-album concept écrit par votre double de théâtre, Alice. On va tout expliquer dans quelques instants. L'Avalanche, c'est le titre d'ouverture.
La poudreuse t'éclabousse. Tu ne sais pas qu'elle arrive, l'avalanche. Même si le soleil te brûle et que l'air froid te glace, l'espace, insolente insouciance. Orbiste. Et soudain, tu pressens l'avalanche. Voilà qu'elle se rapproche. Accélère, rapide et légère. Orbiste. Elle t'envahit, te submerge. L'avalanche. Thank you.
Avalanche, un extrait de ce mini-album Mort prématurée d'un chanteur populaire dans la force de la joie. Je sais que vous y tenez. À l'origine, c'est une pièce de Wajdi Mouawad. En quelques mots, la triste et lamentable histoire d'Alice. Alice, c'est vous, un chanteur populaire au costume doré, blond platine, lunettes noires, une star, quoi. Il enchaîne les concerts, il a beaucoup de succès. Bémol, il est quand même à un tournant de sa vie et de sa carrière, la cinquantaine. Et il ne faut pas se le cacher, ce n'est plus comme avant, l'énergie manque un petit peu. Alice a des crises qui n'épargnent pas son entourage, la presse n'est pas dupe et même un article va le pulvériser. C'est une estocade, une mise à mort. Alors il a une idée, mettre en scène sa propre mort, disparaître pour niquer le système qui préfère les chanteurs morts que vivants. Vous le pensez vraiment qu'on préfère les chanteurs morts que vivants ?
Non, je pense qu'on aime bien les... Disons que les chanteurs morts font moins de concerts, font pas de tournées. Par exemple, on peut pas
ils laissent la place aux autres.
Oui, on peut pas leur parler. À part qu'on parle à leur tombe, mais... Il y a une part de vérité quand même que certaines personnes peuvent être oubliées ou méconnues ou peut-être un peu méprisées.
Et réévaluées au moment de leur disparition.
Que leur mort les re-rende entre guillemets sexy ou fréquentables, ça arrive souvent quand même.
Et bien sûr, donc quand Alice sera mort, eh bien on sortira un album posthume. Alice d'ailleurs se met à le composer. L'inspiration revient, il n'y a plus de pression puisqu'il est mort, il peut tout expérimenter et c'est super parce que ça ressemble à du Arthur Ashe. Ensuite, un mix de ce mini-album concept 8 titres, mort prématurée d'un chanteur populaire dans la force de l'âge.
Oh, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Quand je ne serai plus là, ne m'oublie pas. Oh, ne m'oublie pas, pense à moi.
Dites-moi seulement où nous sommes.
Écoute-moi, le plus dur est fait. Mais écoute, bon Dieu! Ce qui te fait mal, c'est pas seulement le chagrin que tu causes à tes amis, c'est aussi, c'est surtout la liberté brutale que tu viens de gagner. D'un coup, regarde, c'est terminé. Tu es mort et tu es débarrassé de tout. Qui ne souhaiterait pas ça? Tu fais ce que personne n'ose faire, justement parce que rien n'est plus effrayant, plus terrorisant que la liberté.
Je suis le zombie chantant, le mort vivant qui marche, comme dit Rimbaud, à peu près. L'éternité, quoi, est retrouvée. Oh, bel Arthur, les supplices sur Nancy s'en est allé. Au loin danser. Oh, ma douleur. La plus triste des chansons de ce triste monde. Oh, ma douleur, tiens-toi plus tranquille.
Ta gueule ! C'est fini !
Vous vous faites rire.
Ah ouais, c'est marrant. Non, mais je suis content parce qu'on dirait vraiment un film. Ah, mais quoi.
Une BO.
Ouais, on dirait une BO de film. Et ça, j'aime bien. Parce que Léonore Mercier, ma compagne, elle dit toujours du cinéma. Elle fait du cinéma pour les oreilles. Mais là, c'est vraiment le cas, quoi. Ouais.
C'est la BO, donc, de cette pièce de théâtre. Ça ressemble à du Arthur Ashe, mais c'est signé Alice, votre double de fiction. Alors, c'est intéressant parce que quand on écoute les 8 titres, il y a des pistes de son qu'on n'avait pas véritablement entendues, ou presque. Et notamment, l'habillage électro, qui me rappelle une collaboration sur un album de Molécules, qui va d'ailleurs sortir en vinyle. L'album s'appelait Music for Containment. Des morceaux d'ambiante. Et je voudrais qu'on écoute le vôtre, titré Paris, la silencieuse, pour voir s'il y a un lien entre ces plusieurs compositions. D'abord, Arthur Ashe, est-ce que vous avez aimé composer de la musique ambiante ?
Ouais, j'écoute énormément d'ambiance et puis Molécule, il a appelé plusieurs musiciens, il a dit, est-ce que vous pouvez me faire un morceau d'ambiance? La situation est tellement anxiogène.
Ouais, c'était le confinement.
C'était le premier confinement, fin du premier confinement. Et donc il a dit, voilà, vous pouvez composer un morceau, c'est pour le disque sort dans 15 jours. C'est vachement marrant parce que c'était que dans les trucs de streaming.
Oui, c'était analogique, ouais.
Du coup, tout le monde a joué le jeu. Moi, j'ai composé en 3-4 jours. Et puis, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que je l'ai fait dans une petite pièce, tout seul. Et je me suis dit, ah ouais, je peux faire un disque tout seul, en fait. Ça, je l'ai fait tout seul, comme un grand.
Il y a un lien, donc, avec aussi le mini-album de mort prématurée d'un chanteur populaire.
Le lien, c'est disons, l'indépendance et le matériel, qui est effectivement le matériel de l'électro, c'est-à-dire un synthé. Un ordinateur, deux enceintes, une carte son et c'est tout. Basta un micro, le matériel minimal possible. Quoi.
Vous travaillez de quelle façon vous, Clara Aizé, avec le matériel minimal ou plutôt le déploiement lyrique?
Moi, je compose au piano et à la guitare et après, soit je maquette un peu, soit j'ai des intentions et je travaille avec des instrumentistes. Et pour le moment, c'est vrai que je pars vraiment de son organique et je vais choisir des instrumentistes qui m'émerveillent parce qu'ils vont apporter quelque chose que moi, j'aurais pas pu imaginer.
Donc, une autre façon de travailler pour Arthur H, en tout cas sur ce mini-album. Ouais. Et à propos de ce disque, je voudrais qu'on entende l'auto-interview que vous avez faite. C'est Arthur H qui pose des questions à son double de fiction, Alice. On l'a vu ça sur YouTube. Et ça donne ça sur des questions de musique.
Le disque, le fait que je chante tes chansons, t'as trouvé ça marrant? T'es pas bachung, hein? Quoi? T'es pas bachung? Je suis pas bachung? Ah ben, bachung, il n'y en avait qu'un, hein. Alain Bachung. Et il est mort. Ben voilà, c'est ce que je dis. Ça sert à vraiment eu de la gueule. Ben, moi j'ai bien aimé, hein. T'as fait un super boulot. Alors, tu t'es lâché à l'autotune, c'est incroyable, tu m'as scié à l'autotune, tu t'es complètement lâché.
Vous êtes lâché avec l'autotune?
Oui, je me suis lâché avec l'autotune.
Vous avez bien aimé, en fait?
J'ai adoré ça, ouais.
C'était la première fois? Ou presque?
Oui.
Il essaye même de le faire tout seul, tellement ça lui a plu.
Oui, c'était la première fois.
Mais qu'est-ce que vous avez trouvé là-dedans, dans cet instrument, en fait, qui n'est pas simplement un correcteur de voix, mais un instrument?
L'autotune, pour nos auditeurs. Certains auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'était juste un logiciel de correction de la voix pour les chanteurs qui chanteraient faux. Et ça corrige automatiquement la voix, quoi. Et c'était juste, et puis après c'est devenu un instrument à part entière. Les gens se sont emparés de l'autotune. Ça donne un côté un peu robotique, mais ça lisse la voix aussi. Alors maintenant c'est produit en quantité absolument industrielle. Donc c'est un peu ennuyant parce qu'il y en a tellement que c'est industriel. Mais par contre, il y a certains artistes qui font des choses originales avec.
Et vous, ça vous a permis de faire quoi?
Ben moi, ça m'a permis, en fait, change ta voix, donc du coup tu t'entends différemment, du coup tu chantes différemment. Et moi qui suis une personne assez mystique, ça donnait un côté un petit peu religieux, un peu comme ça. J'ai fait des mélopées, des trucs très très veloutés, ça lisse en fait. Du coup, quand j'ai commencé à chanter Baudelaire à l'autotune, je me suis dit voilà, là c'est ça. Charles Baudelaire est sorti de sa tombe et il m'a remercié personnellement.
Alors il y a... Vraiment, vous êtes mystique.
Vraiment, non, mais...
ouais. C'est des champignons, ça? C'est quoi?
Non, c'est la sensibilité.
D'accord.
Et par contre, là je rigole, mais sérieusement, je trouve que Baudelaire est quelqu'un de très contemporain, en fait. Certains de ses poèmes sont intemporels. Et certains de ses poèmes sont hyper contemporains, parlent vraiment de ce qu'on vit aujourd'hui. Et je trouve que le chanter à l'autotune avec un rythme et tout ça, technoïde, bizarre, finalement, ça peut rendre peut-être la modernité, enfin en tout cas j'espère que ça rend la modernité de ses mots, surtout ce poème Recueillement qui parle de la solitude, qui parle d'une ambiance oppressante qui envahit une ville, qui parle du retour de la foule, de la masse, dans ce qu'elle a de plus, disons, inquiétant. Donc voilà, je trouvais ça pas contradictoire, Baudelaire, l'autotune.
Je vais rebondir sur le terme mystique. Vous l'êtes, Clara Aizé?
Oui, je crois.
Ça se manifeste de quelle façon?
Non, mystique, je sais pas. En tout cas, j'ai une foi profonde dans des choses qui nous dépassent, en tout cas, oui.
Vous avez fait l'expérience déjà de choses qui vous dépassaient?
Ah oui, mais je crois qu'on fait l'expérience tous les jours de choses qui nous dépassent.
Moi, rien ne dépasse. Je suis d'un terre à terre, je suis littéral, moi.
Oui, et puis je pense que, pareil, par exemple, le rapport à la poésie qu'il peut y avoir même dans mes textes de chansons ou dans les textes, dans le texte romanesque de Mise à feu, mais il y a cette idée que l'imaginaire est performatif et que à force d'appeler les choses dans l'imaginaire, elles finissent par arriver. Et je pense que c'est une certaine forme de mystique.
Je vais rester sur ce sujet avec vous, Arthur H., parce que je sais que vous avez fait, avec Wajdi Mouawad, que vous avez rencontré pour cette pièce, vous avez fait un voyage en Amazonie et au Groenland ensemble, c'est ça ? En Amazonie, des expériences...
Et c'est vachement dur d'aller en Amazonie et au Groenland en même temps.
En même temps, oui. Ouais. Mais quand on est mystique, on peut y arriver, vous savez.
Oui, quand on est mystique, on peut tout.
Donc, en Amazonie, vous avez fait des expériences hallucinogènes ? Avec
un petit peu.
Donc des choses vous ont dépassé manifestement.
Oui, bah en fait on vit de moi j'ai, dans ma vie j'ai quand même expérimenté vraiment un petit vraiment purement expérimental des drogues bien sûr parce que ça m'intéressait. Je me suis jamais disons comment les gens se défoncent pour le plaisir ou pour faire la fête, ça m'est jamais arrivé. Mais par contre, pour m'explorer moi-même et la musique, oui, bien sûr, je l'ai fait quelques fois. Et là, du coup, bah, c'est... moi, je dis, par contre, rien. Ouais, je dis, il a jamais fumé un joint, quoi. C'est quelqu'un de très pur à ce niveau-là. Du coup, on s'est dit, on avait un plan par un copain qui connaissait un chaman, au cœur de la forêt, assez retiré de tout. Et on s'est dit que ça serait une belle expérience de faire ça, de faire quelque chose de potentiellement dangereux aussi pour nous, pour lui, pour moi aussi d'ailleurs. D'ailleurs, moi, je l'ai moins bien vécu que lui. Lui, il a vraiment eu des très très belles visions de son enfance aussi, d'une lune. Et il s'est passé des choses, quand même, fatalement, on passe de l'autre côté du miroir quand on fait ça. Ouais. Donc, c'était deux poètes expérimentaux qui étaient ensemble, on a vécu des très très belles choses, vraiment des très très belles choses.
Alors, c'est une expérience que vous avez aussi menée avec votre père. J'avais écouté une masterclass que vous aviez fait sur France Culture, et vous racontiez que votre père vous avait donné une omelette aux champignons hallucinogènes chez Coluche, en Guadeloupe. Vous avez un souvenir de ce moment entre un père et un fils et ce qui peut se passer?
Oui, bah, il s'était passé quelque chose de quand même très puissant, parce que moi-même, à l'époque, j'avais 15 ans, j'étais très, très novice en tout, absolument. Donc, mon père me donne cette omelette vers 16 heures. Et on l'a pris ensemble, et c'était vraiment on s'est monté doucement. Il y avait une fête chez Coluche, il y avait plein de gens qui arrivaient. D'ailleurs, je me rappelle très bien que j'avais rencontré Reiser, le dessinateur, qui nous avait dit bonjour, mais nous, on commençait à monter, tu vois. Donc, c'était, à un moment, on s'est dit, oula, le bruit, l'excitation, tout ça, faut qu'on parte. Et là, la maison de Coluche, il y avait un énorme jardin, très grand, un jardin tropical, bien sûr, parce que c'était en Guadeloupe, qui était absolument magnifique. Et là, les hallucinations sont montées. Puis faut voir que les champignons hallucinogènes, c'est une plante. Donc ça met en contact avec le monde végétal de manière très intime, parfois très effrayante. Mais on a vraiment l'impression de communiquer avec les plantes. Et je pense que les Indiens savent très bien se diriger là et carrément parlent avec les plantes, quoi. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, de pas du tout rationnel, mais réaliste, en fait, en vrai. Du coup, voilà, on était dans cette jungle tropicale absolument magnifique, et moi, je marchais derrière mon père, et je voyais tout symboliquement, et à un moment, je l'ai arrêté, je lui ai dit, si je suis toujours derrière toi, parce qu'à l'époque, c'était tellement une statue, mon père, voilà, c'était quelqu'un de grandiose, quoi, et que j'aimais beaucoup, mais qui était écrasant, absolument écrasant, quoi. Du coup, je lui ai dit, si je suis toujours derrière toi, je ne trouverai jamais mon chemin. Et il s'est retourné, et il m'a regardé, et il m'a dit, d'accord, je comprends. Et il est parti. Et là, je me suis retrouvé tout seul, dans l'obscurité totale. Et là, j'ai commencé à faire un bad trip, quoi. Parce que j'étais pieds nus, il y avait des épines. J'ai mis très longtemps à retrouver le chemin. Mais c'était quand même l'an zéro d'une individualité.
Oui, puis quelque chose s'était dit, justement.
Voilà, j'étais tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Clara tout à l'heure, que à un moment on réalise que la poésie, c'est pas quelque chose en l'air, c'est pas quelque chose de déconnecté. En tout cas, les mots dans lesquels on met une intention, c'est quelque chose qui crée notre vie, la construit vraiment à long terme, quoi. C'est un objet de pouvoir très très puissant C'est pour ça que qu'on est poète aussi, on est très triste en fait de voir cet outil si mal utilisé en général, quoi, si utilisé avec si peu de conscience, parce que du coup, évidemment, c'est un outil constructeur, créatif, mais aussi également un outil extrêmement destructeur, quoi. Et voilà, mon père m'a laissé dans la jungle, et puis après, deux jours plus tard, j'ai fait une fugue, et je suis jamais retourné au lycée, quoi.
Ouais. Ah oui, vous êtes parti ensuite à Boston, étudier le jazz.
Oui, là, bah, donc, après, non, après j'étais tellement largué.
Le moment d'une émancipation, en effet.
Ouais, un point zéro, quoi.
Arthur H. Clara Aizé, on va se retrouver dans quelques instants. On a rendez-vous avec Marion Guilbeault pour les nouveautés nouvelles. Mais avant cela, Clara, on vous a communiqué la playlist de France Inter pour programmer un titre ce soir. Et vous avez choisi Delgrès. Pour quelle raison ?
Parce que j'adore, parce que je trouve qu'il explore plein de genres différents. Il y a le blues que j'adore, il y a des choses de jazz. Et
le créole aussi.
Le créole, évidemment.
Donc une autre langue.
Oui. Ouais.
Qu'on entend peu, justement, dans la chanson française. Ces mots-là, tout de suite, Delgrès sur France Inter.
Dis-moi ça qui vivait, dis-moi ça qui vivait. Dis-moi ça qui passait, dis-moi ça qui passait. Dis-moi ça qui vivait, dis-moi ça qui vivait. Pourquoi on t'a plairé, dis-moi ça qui laissez-moi vivre.
En direct sur France Inter, il est temps de tout savoir sur quelques sorties à venir. Marion Guilbeault a sélectionné ses nouveautés nouvelles.
Tu t'appelles comment ?
Côté B. Club.
Pierre.
Sur France Inter.
Pierre comment ?
Pierre Daven-Keller qui nous fait le coup du duo Gainsbourg-Bardot avec Barbara Carlotti dans le rôle de la blonde fatale, toujours prête à donner de sa voix glamour sur les projets des copains. Le copain, c'est Pierre Davenkeller, qu'on avait connu au début des années 2000 sous le nom de Pierre Bondu. Chanteur, bassiste, compagnon de route de Catherine, Miossec, Dominica, complice d'Ariel Dombal. Il s'est réinventé en un double cinématographique Davenkeller pour composer des bandes originales de films des frères Larieux ou de Catherine Corsini. Mais revenons à cette chanson qui est née d'une session unique à FIP. C'était le 12 juin dernier, à l'occasion du Disquaire Day. Pierre Davenkeller avait invité Barbara Carlotti à enregistrer un 45 tours Dakota Jim 2, 45 tours qui avait été pressé dans la foulée, comme c'est la coutume. Une chanson qui sonne comme un hommage appuyé et réussi à l'esprit Melody Nelson. Talk over, basse Hofner pour le son bien élastique, chœur et cordes grandiloquents, voix féminine sexy, climat langoureux. Ils ont coché toutes les cases, ils ont joué à merveille leur rôle de Bonnie and Clyde pop. Pas de sourire en coin dans cette chanson, juste un clin d'œil au grand Serge.
D'origine hybride, Cheyenne et Latine.
Peau brune, supplicée, je t'ai vu arriver.
Dans ce bar de nuit de banlieue de LA.
Tes marches souples, néanmoins assurées.
Bandana au cou, bracelet au poignet.
Dakota Jim.
Dakota Jim 3, Pierre Davenkeller, Barbara Carlotti, avec cette version studio de la session unique de FIP. Autre coup de cœur de la semaine, c'est pour Écran Total, un duo révélé par La Souterraine, formé par Margot, qui évolue entre la Sorbonne et les Beaux-Arts de Bruxelles, et Camille, nourrie au jazz et aux musiques du monde. Ouverture d'esprit, non-conformisme, combinaison de voix pastel et de sons acides, une pop contemporaine et hypnotique. C'est depuis Schaerbeek, un quartier de Bruxelles, qu'Écran Total bouscule notre inconscient, pose les questions de l'amour, du désir, de l'honnêteté. Les climats sont nébuleux, sensuels, comme les dessins de Margot, présent sur le clip de ce Schaerbeek Love.
Qu'est-ce que tu cherches?
Schaerbeek Love, cet extrait de l'EP du même nom, et ça vient de sortir. Enfin, cela fait une quinzaine d'années que Limousine nous fait voyager avec leur musique instrumentale. Une musique qui convoque certaines bandes originales de films, mais aussi le jazz, le post-rock, une musique en clair-obscur, mais avec de l'espace pour se projeter des images. Limousine, ce sont quatre fortes personnalités. Maxime Delpierre à la guitare, Laurent Bardenne au clavier et au sax, David Aknin à la batterie, Frédéric Soulard au clavier. Quatre musiciens qui, à côté de Limousine, mènent chacun leur vie. Certains ont partagé les routes de Ponyhawks, Camélia Jordana, Pierce Faccini, Vitalik ou encore Thomas de Pourquerie. Un quatuor qui cultive l'élégance jusque sur scène où il performe assis et en costume. Et à cette musique sans voix est venu se rajouter pour la première fois un chant habité, fiévreux, c'est celui de Victor Solf. Et on ne peut que saluer cette ouverture, car sur la pop spatiale de Limousine, le Sam Cooke rennais fait des merveilles comme à son habitude.
Home on my head. Hold our hope in the garden. I'm an old man, John Lee Hooker. Really love one another. Home on my head. Hold our hope in the garden. I'm an old man, John Lee Hooker. Really love one another.
Thank you. say stories are lost in the wind. I hear a noise, I need a hug. I hear the noise again. She used to hold me close. She used to hold me. She said, I say, what a Christmas this is. She tickles my tummy. She tickles the stars now. She used to hold me close. She used to hold me. And my mom and my kisses, always lost in the wind. I hear a noise, I need a hug. I hear the noise again. She used to hold me close. She used to.
Alors, parmi ces trois titres sélectionnés par Marion, est-ce qu'il y en a un qui a retenu plus particulièrement votre attention? Clara Isée, Arthur Hage, Clara Isée,
le dernier.
Le dernier, bah, oui. Limousine,
oui,
avec Victor Solf.
Ouais, moi aussi, j'ai eu la chance de tourner un an avec Laurent Barden, le compositeur et le saxophoniste. Ouais, c'est très beau, hein, Limousine.
Donc, un carton plein pour Limousine. Voilà. C'est parfait. Ouais. Merci, Marion.
Côté.
Je veux bien un peu plus de vocodeur encore, s'il te plaît.
Club.
Sur France Inter.
Ce soir, c'est The Voices dans Côté Club. Arthur Hache, la voix grave avec du grain. Clara Isée, une voix grave au registre très étendu. Formation lyrique oblige. On va vous écouter d'ailleurs tout à l'heure, Clara Isée. Car l'actualité ce soir, c'est la rentrée littéraire. On attendait un premier album. Eh ben non, c'est un premier roman que vous signez chez Grasset. Mise à feu. D'abord, quel a été l'élément déclencheur? Vous étiez en tournée? Vous aviez du temps à perdre?
C'était une histoire qui m'habitait depuis longtemps, et notamment sur ce duo entre un frère et une sœur. Et je crois que parfois on a des personnages qui nous habitent, et puis un jour ils nous disent que c'est le moment, quoi.
C'était le moment. La narratrice s'appelle Nin. Au début du roman, elle a 6 ans, son frère Gaspard 2 ans de plus. Ils sont accompagnés d'une pie dont ils connaissent la langue, une pie qui va veiller sur eux. L'histoire débute un soir de réveillon. L'Amazone, c'est le nom de leur mère, libre, solaire, sensuelle, a invité des amis pour fêter la nouvelle année. Mais un drame se passe, une mise à feu. La maison brûle et la vie bascule. Disparition de la mère, manifestement choquée, elle est partie retaper une maison de famille pour accueillir ses enfants, qui pour l'instant ont été confiés à leur oncle, le Lord. Personnage très inquiétant, il se balade avec une batte de baseball en cuir dans son sac au cas où. Il a des colères frénétiques, des accès de violence incontrôlés. Des accidents arrivent, les sous-vêtements de Nin vont disparaître, des pages de son journal intime sont arrachées. Il y a une tension sexuelle malsaine dans cet appartement. Seul moment d'apaisement, la réception de lettres que leur mère leur envoie et qui parle de retrouvailles. Mais les années passent, un an, deux, peut-être plus. Quand vont-ils se retrouver? Une phrase à prendre à tous les sens du terme. Le roman est très musical dans sa langue, dans son phrasé, on y entend plein de chansons qui sont autant de clés de lecture. Mise à feu est placée sous le signe de deux chansons d'ailleurs. L'une ouvre le livre sur ses paroles.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Non, ce n'est pas Arthur Hache.
Non,
c'est Léonard Cohen. Pour ouvrir ce premier roman, quelle clé de lecture avec ce titre-là?
You Want It Darker, We Kill the Flame. Pour moi, c'est presque l'antithèse de ce que dit le titre du roman. Et du coup, c'est une invitation à plonger, je crois, d'abord. Et puis, c'est aussi une chanson qui est pour moi une des plus belles chansons au monde. Et je me suis rendu compte, d'ailleurs, c'est un ami qui m'a fait me rendre compte qu'il y a I'm Ready My Lord dans la chanson qui est...
Et The Lord, c'est le nom de l'oncle inquiétant qui va mettre une ambiance délétère sur la famille. Une autre chanson va rythmer aussi tout le roman, c'est Wild Is The Wind. Alors elle est chantée par Nina Simone, par David Bowie. Quelle est la version du livre?
Celle de Nina Simone.
Me. I hear the sound of mandolins. You
vous souvenez quand vous avez entendu cette chanson pour la première fois, que la réalisée, pour quel rythme, véritablement, tout le roman.
Oui, c'est vrai. Mais parce, sûrement aussi parce qu'il y a le rapport au vent dans cette chanson, ouais, et qui incarne la liberté dans le roman, puisqu'elle est aussi, c'est le personnage de Nouchka qui est aussi, qui est la pie et qui symbolise l'envol et qui symbolise plein de choses dans le roman. Et pour moi, la chanson de Nina Simone, c'est une des plus belles chansons d'amour qui existe au monde et qui est liée à la liberté, quoi. Donc, pour moi, c'est comme un espèce de quelque chose qui vient hanter les enfants. Et puis la chanson dit que sauvage est le vent et je suis comme le vent. Et je crois que pour moi, ça fait aussi référence au personnage de l'Amazone, qui est un personnage qui est à la fois magnifique et puis très sauvage aussi, et que la sauvagerie de leur mère aussi les propulse dans un univers qui est très violent.
Vous avez écouté la version de Bowie ?
Oui, je l'adore aussi quand même. Évidemment.
Alors on se la passe. Beau, vous avez écrit avec Nina Simone dans la tête et moi je l'ai lu avec David Bowie. C'est la liberté du lecteur,
absolument,
Madame Clara Isée. Alors avant de poursuivre, je voudrais avoir un mot sur le personnage de cette pie avec qui les enfants véritablement communiquent. Puis quand ils sont adolescents, ils vont véritablement, oui, il y a une communication, ils entendent et comprennent ce langage. C'est un lien surnaturel donc avec cet oiseau qui donne à votre roman une dimension de réalisme poétique. Quelque chose qui est propre à la littérature latino-américaine. Quel est votre lien avec cette culture, Clara Isée ?
Eh ben, j'ai été en partie élevée par une femme colombienne, Rosario. Donc j'ai beaucoup parlé espagnol enfant avec elle. Et c'est vrai que c'est une littérature qui m'a beaucoup bouleversée, parce que justement, sur le rapport à l'imaginaire performatif, c'est une littérature qui l'explore énormément, et où en fait la magie répond aux règles du quotidien tout le temps. Et en fait, c'est pas une magie qui est à côté du réel, non, mais qui est une façon en fait d'augmenter le réel. Et par exemple, le personnage de Nouchka dans mon roman,
la pie,
du coup, c'est vraiment, pour moi, il y avait une double. Elle symbolise aussi le langage en fait entre les deux enfants, qui est le langage de l'enfance, qui est le langage de avant l'incendie. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir les deux trajectoires de ces deux enfants vis-à-vis de ce langage-là, où en fait. Gaspard, le frère, va se mettre à entendre de plus en plus de voix d'oiseaux, et Nouchka et Nine, la personnage principale, en grandissant, se met à plus comprendre Nouchka, donc elle est exilée en fait du langage de l'enfance, mais malgré elle en fait. Et du coup, Nouchka, pour moi, c'est l'envol et c'est le rapport à la poésie et à l'écriture aussi.
Cette poésie sombre, on l'a trouvée déjà dans votre premier EP en 2019. La preuve, le monde s'est dédoublé.
Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. Je ne percevais plus les choses comme des choses réelles. Le monde s'est dédoublé. J'ai pris peur, j'ai crié que quelqu'un me vienne en aide. Le monde s'est dédoublé. J'ai accueilli un ami qui m'a pris dans ses bras et m'a murmuré tout bas. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience vers un nouveau rivage. Ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares, t'éclaire de ses phares. Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. J'ai senti le temps se fondre un instant sur les visages mêmes. Le monde s'est dédoublé. Vos corps que je percevais hier encore dans leur exactitude
ont perdu leur densité. T'éclaire de ses phares. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami. Te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience. Vers un nouveau rivage, ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares, t'éclaire de ses phares.
Je vous regardais complètement concentré sur un morceau.
J'aime beaucoup cette chanson. Je trouve que c'est une grande chanson en fait.
Vraiment.
Le musicalement, le texte, l'énergie, elle vous prend, elle vous emporte. Le texte est mystérieux, il est poétique. La mélodie est super, très riche. Elle est complexe quand même. C'est vraiment bravo.
Merci.
Et c'est bizarre parce que ce que vous dites de la chanson, c'est ce qu'on pourrait dire du roman aussi.
Ah bah, véritablement,
parce qu'il est assez complexe, et notamment pas complexe dans ce qu'il raconte, mais complexe par exemple dans les rapports de temps. J'en parlais tout à l'heure en loge avec Lara Isé. Il y a un rapport entre le passé et le présent, et là je parle véritablement du temps grammatical où le présent apparaît quelquefois par inadvertance au cœur d'une phrase, au cœur d'un paragraphe, alors même qu'on s'y attend pas, et ça joue justement sur les histoires de réminiscence et de souvenirs. Clara Isé, vous aussi, vous êtes dédoublée, auteure, compositrice, interprète, romancière avec Mise à feu, premier roman d'émancipation. L'histoire, donc, les héros sont deux enfants liés par un secret, la disparition de leur mère, deux enfants livrés à un oncle dangereux dans un appartement vide, mais sur les murs, les enfants devenus adolescents ont écrit des poèmes, des paroles de chansons, Janis Joplin, Noir Désir, King Crimson et Tsvetaïeva. Des références avec lesquelles vous avez grandi?
Oui, absolument.
Ça, ce sont des pistes autobiographiques.
Ah oui,
à l'intérieur.
Absolument.
Noir Désir?
Oui, Noir Désir. Mais en fait, ce qui m'intéressait dans la figure de Noir Désir dans ce roman, c'est que Nin, en fait, elle grandit dans un univers qui est un univers extrêmement plus que trouble avec son oncle ou
une violence sexuelle.
D'une violence sexuelle forte. Et en fait, à chaque fois, elle va s'en sortir. Mais en utilisant les choses qui la dominent, en fait. Et par exemple, il y a cette histoire de culottes qui disparaissent, où à un moment donné, elle va décider à l'adolescence qu'elle les vend. Et donc, du coup, elle utilise, en fait, toujours les éléments qui la violente pour se libérer. Et pour moi, dans l'amour qu'elle a pour Noir Désir, de cette musique-là, il y a aussi ça. C'est-à-dire que elle va chercher la musique à l'intérieur de ça, en tant que personnage, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Je m'embrouille un peu, mais, oui.
Il y a plein de chansons aussi dans ce roman. On entend Mina, Il Cielo, In Una Stanza.
Oui.
On écoute Kendrick Lamar et Lana Del Rey dans la voiture, on aimerait être avec eux. Mais je voudrais qu'on écoute le titre grec que votre héroïne, qui prend la voix pour la première fois, chante pour ses amis. Tout à l'heure, Arthur, je vous parlais des souvenirs que vous aviez avec Clara Isé, qui dans sa maison de Ramatuel chantait des chansons en grec. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette chanson? Qu'est-ce qu'elle veut dire pour que vous la placiez dans la bouche de votre héroïne Nine, Clara Isé?
C'est une chanson qui raconte, c'est une mère qui pleure son enfant qui est parti en mer, c'est une chanson d'exil. Et elle parle en fait en disant qu'est-ce que vous avez de la chance de pouvoir le connaître, vous qui maintenant vivez avec lui, etc. Et je pense que c'est une chanson d'exil, c'est une chanson d'amour, de perte. Et
de perte en mer.
De perte en mer.
Qui fait référence à l'histoire, à votre propre histoire familiale.
Bien sûr. Et puis, je pense que de toute façon, tout le roman est construit autour de l'absence.
Mais pas l'abandon.
Mais justement, pas l'abandon. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est que tout le roman est autour de la reconstruction à partir de l'absence et la sublimation de l'absence. Et qu'est-ce qu'on fait pour appeler la vie quand tout nous mène vers la mort, quoi.
Alors justement, Nine a compris justement le message de cette histoire, puisque c'est un roman d'émancipation. Est-ce que ce roman vous a changé, comme il a changé Nine? Est-ce qu'il vous a permis, comme la narratrice, de prendre de la hauteur?
Oui, absolument. Absolument. Il m'a énormément aidée et c'est drôle parce que je crois que j'en ai conscience que maintenant. À l'intérieur de l'écriture, à ce moment-là, je trouve qu'il y a quand même un mouvement dans l'écriture que moi j'ai trouvé difficile. Et c'est fou parce que c'est comme si on récoltait les choses après, quoi. Mais bien sûr, il m'a beaucoup aidé à prendre de la hauteur.
Et ça va s'entendre dans le premier album qui va sortir prochainement?
J'espère.
Et il sort quand, ce premier album?
Il sort au printemps prochain.
Ah oui, d'accord. Donc oui. Vous êtes en enregistrement?
Oui, absolument, en pleine maquette et compagnie.
Toutes les chansons sont prêtes?
Toutes, oui.
En lien avec le texte? Avec ce roman.
Et ben en fait, comme c'est ce qui est magique dans la musique et dans l'écriture, mais je découvre à quel point il y a plein de correspondances, mais je les découvre maintenant.
Ah ben on verra ça dans le printemps prochain. On va se quitter tous les trois avec Indy, Noir Brésil. Ça me fait penser à d'ailleurs Arthur H. que vous aviez lancé l'année de la France au Brésil il y a une dizaine d'années. Vous aviez même composé une chanson avec le chanteur Lénine.
Ouais.
Vous avez un souvenir particulier avec le Brésil?
Oui, et il a plu tout le temps.
Comme moi quand je suis allé.
Il a fait beau un jour. Et j'avais chanté, il y avait Aznavour qui faisait la première partie. Enfin, je chantais juste une chanson. Non.
C'est l'histoire
de la première partie de Charles Aznavour.
Ah voilà, je me suis dit, ah non, mais l'histoire serait merveilleuse. Aznavour vous a pourri votre propre concert.
Non, on a chanté avant, il y avait Nicolas Sarkozy dans la salle que je n'avais pas rencontré. Et Charles Aznavour, malheureusement, j'étais trop timide, j'ai pas dit bonjour. J'étais pas trop dans l'imaginaire Charles Aznavour, mais je regrette maintenant, j'aurais dû aller lui parler quand même.
Inédi chante le côté noir du Brésil, et le sien peut-être aussi.
Mon ancêtre n'a pas de nom, son exil est éternel, les larmes que nous pleurons ne nous appartiennent pas, d'azur et de souffreur sont les sacrifices qu'emportera le silence. Au-delà de la nuit, la mer américaine.
Côté Club, eh bien c'est fini. Merci Arthur H.
Merci beaucoup.
Mort prématurée d'un chanteur populaire dans la force de l'âge. Le mini-album sort dans une heure. Clara Isée, Mise à feu, premier roman. Il est publié chez Grasset. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Ça c'était pour aujourd'hui. Demain, eh bien, ce sera Yann Wagner. Le crooner signe son troisième album, Couleur Chaos. À ses côtés, David Blow pour une nouvelle édition de sa BD devenue culte, Le Chant de la Machine. 50 ans d'électro et de house. Côté Club, c'est Stéphane Le Guenec à la réalisation, à la technique, Sofiane Aktib et Tiffaine Bastille, Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rosic, ça c'est pour la programmation et merci à Valentine Chaudebois pour les playlists. Côté Club, on ferme, je vous donne rendez-vous demain, alors que la musique soit avec vous.